propose que nous regardions, nous intéressions à l'histoire des fils des prophètes au début du deuxième livre des rois. Nous y retrouverons plusieurs étapes, plusieurs points que nous avons rappelés dans le cantique que nous venons de chanter, dans le cantique 103 auquel je pensais et qui est dans la même pensée. Commençons à 2 Rois 2. Mais nous intéresserons ni à Élie ni à Élisée, mais aux fils des prophètes. 2 Rois 2, chapitre 2 Rois 2. Il arriva que lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Verset 3, « Les fils des prophètes qui étaient à Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Bethel, sortirent vers Élisée et lui dit, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» Et il, Élisée, dit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et il, Élisée, dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et il vint à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» Il dit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il, Élisée, lui dit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Ils s'en allèrent, eux deux. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes allèrent et se tinrent vis-à-vis à distance. Et eux deux se tinrent auprès du Jourdain. Verset 11, il arriva comme ils allaient, marchant et parlant, communion, l'instruction, que voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta aux cieux dans un tourbillon, et Élisée le vit et s'écria, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie, il ne vit plus. » Verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis le virent, ils dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils s'en allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui en terre et dirent, Voici, il y a avec tes serviteurs 50 hommes, des hommes vaillants. Qu'ils aillent, nous te prions, et qu'ils cherchent ton maître. L'Esprit de l'Éternel l'aura peut-être emporté et l'aura jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Et il, Élisée, dit, n'y envoyez pas. Ils le pressèrent jusqu'à ce qu'il en fût honteux. Et alors il leur dit, ben envoyez. Ils envoyèrent 50 hommes, ils cherchèrent 3 jours, ils ne trouvèrent pas. Ils retournèrent vers Élie. Or, Élie habitait à Jéricho. Et il, l'Élysée, leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas. » Je lis le paragraphe suivant, mais alors il n'est pas question des fils des prophètes, mais des hommes de la ville. Dirent à Élisée, « Tu vois que l'emplacement de la ville est bon, les eaux sont mauvaises, la terre est stérile. » Et les dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Il sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux, il y jeta le sel. Ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux. Il ne proviendra plus d'ici ni mort ni stérilité, les eaux furent assaisies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Mais je dis bien, verset 19, ce sont les hommes de la ville. Chapitre 4. Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria Élisée disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants afin qu'ils soient ses serviteurs. Alors Élisée lui dit, que ferai-je pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle dit, ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout dans la maison. Qu'un pot d'huile. En fait, c'est là l'essentiel. Et il dit, va, demande pour toi du dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas peu. Et rentre et ferme la porte sur toi, c'est important, ferme la porte sur toi. Nos expériences avec l'Éternel sont personnelles. On ne va ni s'en vanter ni le divulguer. Rentre et ferme la porte sur toi et sur tes fils et verse dans tous ces vases et ôte ceux qui seront remplis. Elle s'en alla d'auprès de lui, ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient les vases et elle versait. Il arriva que quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, apportez-moi encore un vase. Et il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle s'en vint, et elle vint, elle raconta à l'homme de Dieu, et elle dit, va, vends l'huile, paye ta dette, et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. Ensuite, le récit de la Sunamite, la femme de Sunem, jusque chapitre 4, verset 37. Alors de Sunem, au chapitre 4, verset 38, Élisée retourna à Gilgal. Il est donc maintenant à Gilgal. Or, il y avait une famine dans le pays. Et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Et il dit à son jeune homme, on peut penser que c'est encore ce que c'est Géasi, mets la grande marmite et cuise un potage pour les fils des hommes. Il y avait une famine dans le pays. Il dit, il demande, mets la grande marmite et cuise un potage pour les fils des hommes. Pour les fils des prophètes. Cuise un potage pour les fils des prophètes. Excusez-moi, j'étais déjà parti plus loin. J'étais déjà parti au verset 43. Géasi dit, comment mettrai-je ceci devant 100 hommes? Donc, les fils des prophètes qui étaient assis, début du verset 43, 100 hommes. Et l'un d'eux, donc un des fils des prophètes, sortit au champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et cueillit des coloquins sauvages plein sa robe. Il rentra et les coupa en morceaux dans la marmite. Il les coupa en morceaux dans la marmite du potage car on ne les connaissait pas. Et on versa à manger aux hommes. Il arriva que comme ils mangeaient le pot du potage, on cria « Homme de Dieu, la mort est dans la marmite !» Et ils ne pouvaient pas en manger. Alors il, l'homme de Dieu, il lui a dit, apportez de la farine. Il la jeta dans la marmite et dit, versez-en à ce peuple et qu'il mange. Il n'y avait rien de mauvais dans la marmite. Verset 42. Il vint à Baal-Shalisha, un homme qui apporta à l'homme de Dieu du pain des premiers fruits. C'est-à-dire 20 pains d'orge et du grain en épi dans son sac. Et il les a dit, donne cela au peuple et qu'il mange. Et celui qu'il servait, peut encore penser que c'est Géasi, dit, comment mettrai-je ceci devant 100 hommes? Et il, Élisée, dit, donne-le au peuple et qu'il mange. Car ainsi dit l'Éternel, on mangera et il y en aura de reste. Il le mit devant eux, ils mangèrent, ils en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Ensuite, le récit de Naaman, qui montre la grâce qui, alors que l'Éternel est rejeté d'Israël, la grâce qui s'étend aux nations, et puis l'acte, la réaction et l'acte odieuse de Géasi. Chapitre 6. Et l'un des fils des prophètes dirent à Élisée, ils sont à Gilgal, semble-t-il. Et les fils des prophètes dirent à Élisée, tu vois que le lieu où nous habitons, voici, tu vois, le lieu que nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain, et nous y prendrons chacun une pièce de bois, nous y bâtirons un lieu pour y habiter. Et il dit, allez. Et l'un d'eux dit, insiste, consent, je te prie, à venir avec tes serviteurs. Alors Élisée répond, j'irai. Il alla avec eux, ils vinrent au Jourdain, coupèrent des arbres. Il arriva comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, donc un tronc, que le fer tomba dans l'eau, et il s'écria, hélas, mon maître, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé ? Il montra l'endroit. Et Élisée coupa un morceau de bois, et l'y jeta, et fit surnager le fer. Il dit, enlève-le. Il étendit sa main et le prit. Il semble que c'est la dernière fois que les fils des prophètes sont mentionnés, mais je lis encore un verset au chapitre 9. Et Élisée, le prophète, appela un des fils des prophètes et lui dit, « Saint-Hérin, prends cette fiole d'huile en ta main, va-t'en à Ramoth de Galaad, entre là et voici Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu entreras, tu le feras lever du milieu de ses frères, tu le mèneras dans une chambre intérieure, tu prendras la fiole d'huile, tu la verseras sur sa tête et tu diras, ainsi dit l'Éternel, je t'ai oint sur Israël, tu ouvriras la porte, tu t'enfuiras, tu n'attendras pas. » Verset 14, et le jeune prophète s'en alla à Ramoth de Galaad. Voilà donc quelques étapes des fils des prophètes qui nous interpellent tous. Toutes ces images de l'Ancien Testament sont pour nous parler à nous-mêmes, sont pour nous instruire. Et chaque fois que la parole l'enseigne, l'Ancien Testament nous donne une image, nous la prenons pour nous-mêmes, nous prenons ces exemples pour nous-mêmes et nous en tirons exemple, profit et leçon. Nous revenons au chapitre 2. Il y a ce magnifique chemin de Élie avec Élisée. Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain, mais c'est un autre sujet aussi riche, important et significatif soit-il pour nous. Chemin du croyant. Nous nous intéressons aux fils des prophètes. Les fils des prophètes sont intéressés par la scène. Il y a de l'intérêt chez les fils des prophètes. Mais nous voyons qu'ils tiennent à distance. Il y a une expression qu'on a lue au chapitre 2, milieu, fin du verset 7, « Et eux deux se tinrent auprès du Jourdain, alors que, verset 7, les 50 hommes dans les fils des prophètes se tinrent vis-à-vis à distance. » Les fils des prophètes savent, ils ont de la connaissance. Ils disent à Élisée, verset 3, verset 5, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» Ils ont une connaissance, ils ont une appréciation des choses, mais comme si cela ne les concernait pas. « Sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» C'est une affaire entre l'Éternel, entre Élie et Élisée, et nous sommes des spectateurs. C'est bien le danger que nous courons et nous adressons à ceux qui nous suivent, même si aujourd'hui ils ne sont pas très nombreux dans ce local. Le danger est de profiter de ce que l'Éternel a établi. Vous êtes nés dans des familles chrétiennes. Vous arrivez dans un rassemblement, le rassemblement que vos parents ont toujours suivi. Vous avez suivi les réunions. Vous avez profité de l'enseignement de l'école du dimanche avec des frères qui vous sont dévoués. Vous avez profité des enseignements essentiellement le dimanche après-midi, la lecture de la parole. Mais quelquefois, vous avez un peu l'impression que cela vous dépasse. Et vous vous contentez de cette, avec satisfaction, qui est bonne, qui est juste, de cette position extérieure. Voilà, les frères disent ceci, les frères disent cela, les frères et les sœurs y font ceci, les frères et les sœurs y font cela, et moi je regarde comme à distance et bon, c'est normal, c'est bien, c'est bien. Et ils savent, vous savez beaucoup de choses. Vous connaissez le moyen du salut, certainement vous l'avez accepté. Vous connaissez l'engagement, l'exhortation quant à l'engagement de la vie chrétienne. Et ces fils des prophètes craignaient Dieu. C'est ce que la femme, au chapitre 4, dit. « Ton serviteur, mon mari, tu sais que tu es mort, tu sais que ton serviteur craignait Dieu, craignait l'Éternel. Vous craignez Dieu. » Mais dans un sens, un peu comme Eutyche, dans un acte, vous, comment dirais-je, vous suivez un peu de loin. C'est ce disciple qui fait de Marc, suivait de loin, revêtu d'une tunique de lin. Et ce que vous savez, ce que vous connaissez, vous pensez que c'est juste, vous savez que c'est juste, que c'est bon. Mais c'est ce que vos parents vous ont appris, c'est ce que les frères et les sœurs savent, c'est ce que, j'espère, les frères et les sœurs vivent, mais vous regardez de loin. Sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui dessus de ta tête? Oui, c'est bien, vous le savez. Savez-vous que le Seigneur va venir tout à l'heure nous prendre? Oui, nous le savons, c'est bien. Mais il arrive un moment, et on le verra justement dans ces différentes étapes que nous relate l'une après l'autre, par ordre croissant, ce deuxième livre des rois, qu'il faut nous approprier ces vérités. Et nous voyons bien que ces fils des prophètes savaient que Élie allait être enlevé, mais n'en connaissaient pas ni la réalité, ni l'application pour eux-mêmes. Et en particulier, ils n'ont pas compris ce que signifie le Jourdain, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils se tiennent à distance. Regarde ce que les autres font. Regarde comment se déroulent les réunions. Ils regardent, ils constatent, profitent même de comment se déroulent les réunions de famille, les rencontres. Grands-parents, parents, petits-enfants, petits-enfants, c'est bien, ils en profitent, c'est bien. Mais vous êtes restés peut-être en deçà du Jourdain, vous ne traversez pas le Jourdain. Donc il y a deux choses qu'il faut d'abord non seulement connaître, mais assimiler pour soi-même, et donc mettre en pratique par la suite, c'est traverser le Jourdain. C'est notre mort avec Christ. Que les deux tribus, Ruben, Manassé, Galad, Gad, deux bitribunes de Manassé, n'avaient pas réalisé pour leur famille. Les hommes armés avaient traversé avec les fils d'Israël le Jourdain. Mais leur famille était restée de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi? Parce que le terrain est bon et tu vois, il y a de la nourriture, il y a de l'herbe pour les troupeaux. C'est tellement plus commode d'avoir un pied dans le monde, d'avoir un pied avec le Seigneur. Oui, oui, je connais ces choses. Et alors, bien sûr, c'est trompeur, parce qu'on demande, on s'inquiète. Vous êtes sauvés, oui, bien sûr. Pourquoi? Ben, Christ est mort pour moi. Vous savez que le Seigneur vient, bien sûr. Bien sûr, le Seigneur vient. Mais il y a deux, il y a quelques vérités essentielles, de dire Christ est mort pour moi. Et puis Galates, je suis crucifié avec Christ. Et pour cela, il faut traverser le Jourdain. Et ensuite, donc, les fils de prophètes ignoraient la deuxième chose, c'est qu'ils ignoraient la résurrection, c'est-à-dire la puissance de l'Esprit, la vie nouvelle, Élisée, qui retraverse le Jourdain, qui revient vers les fils des prophètes. Au verset, fin du verset 14, Élisée passa. Et alors, ne connaissant pas la réalité vivante, énergique pour la vie de la résurrection, alors de même qu'ils avaient dit, sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître de dessus de ta tête? Ils insistent auprès d'Élisée en disant, voilà 50 hommes. Ces 50 hommes, ce n'était pas n'importe qui. Ils étaient vaillants, verset 16, hommes vaillants. Et ils insistent pour qu'Élisée laisse ces 50 hommes aller chercher leur maître le chemin de 3 jours. C'est l'ignorance pratique de la résurrection. Nous insistons auprès de ceux qui nous suivent que il nous faut d'abord marcher avec la foi des parents. Il nous faut recevoir l'enseignement donné dans les maisons. Et les parents doivent en effet enseigner, contrairement aux fils de Ruben, Gad et demi-tribu de Manassé, ce qu'est le Jourdain. Conséquence sur la vie pratique, la séparation du monde, la séparation des caractères, des mobiles, des joies, des buts du monde, notre mort avec Christ. Et ça, il faut l'enseigner. Et c'est au rôle des parents d'enseigner les enfants. Et n'ayez crainte, ne dites pas ça c'est trop compliqué pour les enfants, ils ne comprennent rien. Pas du tout. En général, les enfants, ils comprennent beaucoup mieux que les grands d'ailleurs. Et cela nous étonne souvent de voir comment l'enfant comprend ce qui lui est expliqué et comment ce que dit la parole et ces types de l'Ancien Testament en particulier. Donc les fils de prophètes ne comprennent pas la résurrection, ils s'en restent là. Alors ils reconnaissent que Élisée revient avec l'esprit d'Élie, ils reconnaissent sa suprématie, sa grandeur et son autorité morale, ils se prosternent devant lui et ils s'en vont vers Jéricho. Ils retournent à Jéricho, c'est-à-dire à l'ouest du Jourdain. Mais Dieu ne veut pas que ses fils des prophètes en restent là. Dieu ne veut pas que nous en restions là. Dieu ne veut pas que nous restions comme des petits-enfants. Il veut que nous avancions dans l'état d'homme fait, qui ont les sens exercés pour discerner entre le bien et le mal et pour connaître la pensée de Dieu. Ce sont les étapes qui suivent. Donc pour Jéricho, le sel, le vase neuf, la puissance sanctifiante et purifiante de l'esprit, le sel, la sanctifiante, agissant dans un vase neuf qui est la nouvelle nature, qui purifie les eaux et qui nous purifie de ces eaux mauvaises, de la souillure du monde, de Jéricho, qui avait été rebâti, contrairement à la pensée de l'Éternel, par Yel, le Bethel, lequel habitait Bethel d'ailleurs. Bon, passons. Alors l'étape suivante, c'est au chapitre 4, c'est alors avancer d'un cran, et voilà que fils de prophète, là c'est la femme des fils des prophètes, je pense que nous pouvons assimiler les deux, sinon remarquez qu'en effet le fils du prophète craignait l'Éternel, et que la femme craignait l'Éternel aussi, et que le tout est dans une profonde indigence. Il y a encore 2 ou 3 leçons dans chaque scène de l'Ancien Testament, de même que la chose a été présentée là, le 21 juillet, je crois, une fois que nous n'étions pas là, les ressources que Dieu a données à Élie, les unes après les autres. L'Éternel commence par faire saisir C'était la veuve Sarepta. Ici, en 2 Rois 4, c'est la femme d'un fils de prophète. L'Éternel lui dit, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Eh bien, c'est une question que l'Éternel ne manquera pas de nous poser dans la mesure où nous nous engageons dans la vie chrétienne. S'engager dans la vie chrétienne, mais quelles ressources as-tu? Qu'as-tu à ta maison? Oh. En fait, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Ta servante n'a rien du tout dans la maison. Et alors Dieu fait sentir que, avec la nouvelle nature, ce vase neuf représente vase neuf des eaux de Jéricho, Dieu nous a donné l'esprit. Et que nous le sachions ou non, que nous le réalisions ou non, que nous le vivions pratiquement ou non, l'esprit est en nous. Et voilà que la femme dit, je n'ai rien du tout, ah, qu'un pot d'huile. La veuve Sarepta doit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je n'ai rien du tout à la maison. Sinon, un pot d'huile, une poignée de farine, je ramasse quelques bûchettes, je rentre à la maison, je fais un gâteau, nous le mangeons avec mon fils, après cela nous mourrons. C'est l'expérience à laquelle nous devons revenir, et nous sommes obligés de revenir par notre expérience pratique. Si, quelquefois à notre détriment, que nous n'avons rien du tout. Eh bien, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul, quand je suis faible, alors je suis fort. C'est quand je ne peux plus compter sur rien du tout que la parole d'Élie s'adresse à la veuve Sarepta, va, rentre à ta maison et fais-moi premièrement un petit gâteau et viens et tu me l'apportes. La poignée de farine, le peu d'huile que tu as dans ton pot, fais-en d'abord un gâteau, les quelques bûchettes que tu ramasses, fais cuire ce petit gâteau, apporte-le-moi à moi premièrement. Donne la première place à Dieu et réalise que sans que toi tu ne peux rien faire. Toutes tes bonnes intentions, toute la bonne opinion que tu as de toi-même n'a aucune valeur. C'est ce qu'a fait Paul. Lui, le pharisien, hébreu des hébreux, la tribu de Benjamin, élevé au pied de Gamaliel, selon la loi exacte, animé d'un zèle sans pareil pour le bien du Dieu d'Israël et pour l'accomplissement de la loi, le voilà qu'il tombe de toute sa hauteur. Un éclair le rend aveugle, plus resplendissant que la lumière du soleil. Quand il lit dans sa force, ajoute-t-il dans une de ses apologies à la fin des actes, et le voilà qui est jeté à terre. Paul, jeté à terre. Qu'as-tu dans ta maison? Eh bien, les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai considérées comme une perte. Je n'ai rien. Je n'ai rien à faire valoir. Et tout ce en quoi je peux me glorifier, tout ce en quoi je peux me confier, n'apporte rien du tout. Ah. Quand je suis faible, alors je suis fort. Et d'où vient la force? C'est la suite de ce que dit Paul. J'ai entendu le Seigneur, j'ai supplié trois fois que les chardes s'enlèvent. Mais le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Qu'as-tu à la maison? Rien du tout. Mais j'ai un pot d'huile. Ah, tu as un pot d'huile. Eh bien, mets-le en certain. Mets-le, utilise-le. Alors rentre dans ta maison, ferme la porte. Une fois encore, gardons ces secrets entre l'Éternel et nous. Peut-être certainement ce sont ces secrets que nous pouvons partager avec le conjoint, dans la mesure où l'unité du conjoint, l'unité de famille, l'unité existe. Une seule chair. Et ce que le caractère qui concerne l'un concerne l'autre. Et alors on ferme la porte. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise la puissance de l'esprit. Que d'exemples, Honoré. Gédéon qui va à la guerre, avec quoi? 300 hommes. Il en a laissé des hommes, des milliers d'hommes. Ceux qui avaient peur, puis ceux qui se courbaient pour le... ceux qui se mettaient à genoux pour boire l'eau. Avec 300 hommes, il va à la guerre avec quoi? Des torches et des cruches vides. Reconnaissons que c'est bizarre. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Non, même pas au niveau militaire, mais simplement au niveau humain. Vous dites à un enfant que Gédéon est allé à la guerre avec des torches et des cruches vides, il va dire, mais ce pauvre Gédéon, il ne sait pas ce qu'il fait. Et les hommes qui tournaient autour de Jéricho 7 jours, 7 jours durant, un tour par jour. Les hommes de Jéricho devaient rire. Eh bien, ferme la porte. C'est-à-dire que les expériences que nous faisons avec Dieu ne peuvent pas être comprises du monde. Ferme la porte et utilise la puissance de l'esprit. Et alors, il y en avait largement de reste. Va, vends l'huile, paye ta dette, et puis juste vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. Le pot d'huile et le pot de farine ne manqua pas, jusqu'à ce que la famine disparaisse sous Akab. Et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. Magnifique expérience de reconnaître que, ayant l'esprit en nous, nous avons la puissance de l'esprit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Puissance, amour, conseil. C'est quand même un pas important. Chapitre 4, verset 38. Élisée retourna à Gilgal, il y avait une famine dans le pays. Ah, quelle famine nous voyons dans l'Ancien Testament. Que de famine nous voyons dans ce livre des rois, dans ces livres de l'Ancien Testament, sous l'histoire des rois. C'est la famine, c'est le monde qui n'apporte rien. C'est ce peuple qui quitte l'Égypte, qui marche dans le désert 3 jours, trouvèrent pas d'eau. Ils arrivent à Mara, l'eau est imbuvable. Expérience que la famine est dans le pays. Expérience que pour l'âme renouvelée, Israël qui quitte l'Égypte, qui a traversé la mer Rouge, la rédemption par le sang, devant la culpabilité de Dieu, la rédemption par puissance qui nous délivre de la puissance de Satan, de l'oppression de Satan, eh bien cette âme arrive, marche, doit bien marcher, mais le monde devient un désert. Rien pour répondre aux besoins de l'âme. Il n'y avait pas d'eau. Et lorsque le monde offre quelque chose, des plaisirs, des joies, des « fais ceci, tu verras, viens avec nous, regarde », eh bien, c'est une eau trompeuse. C'est Mara, l'amertume. Et là, c'est la croix de Christ, c'est le bois. Alors là, c'est la famine dans le pays. Vous voyez comme toutes ces images se recoupent, bien sûr, avec toujours en filigrane la même ressource de Christ, qui peut être un sujet à part, mais pas maintenant. Et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Bizarre. Des frères bien intentionnés, de milieu évangélique, nous reprochaient de rien faire pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'allait pas avec eux. Parce qu'on ne travaillait pas avec eux, parce qu'on n'annonçait pas l'évangile avec eux, parce qu'on ne combattait pas avec eux pour l'avancement de l'évangile. Alors vous restez là assis. Qu'est-ce qu'on fait là? Une centaine, là une cinquantaine? On est là assis, on fait quoi? Qu'est-ce que vous aurez de plus après? Eh bien, ils sont non seulement... le problème, ce n'est pas d'être assis. On voit qu'il y en a d'autres qui ont une activité. Le problème, c'est pas d'être, l'important, ce n'est pas d'être assis, c'est d'être assis devant Élisée. Devant Élisée. Une sœur, une vraie croyante, dévouée, attachée à son maître, dis au Seigneur, tu vois pas que ma sœur là, tu peux pas dire à ma sœur qu'elle m'aide, elle me laisse toute seule pour servir. Tu vois bien qu'il y a du travail à faire. Qu'est-ce que vous faites là, les bras croisés, les jambes croisées? Vous voyez pas que en face il va y avoir une animation, là il faut aller présenter l'évangile en face. Il faut aller le long des rues, il faut aller comme les esclaves, derrière les chemins, le long des chemins, derrière les haies. Et vous, et là, vous restez assis. Eh bien, l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Et Luc 10, surtout un temps, non pas pour parler se taire, mais un temps pour apprendre. Un temps pour apprendre. Et alors, avant d'agir, il faut savoir apprendre. Il faut apprendre la dépendance. Et la dépendance entraîne, implique plutôt l'obéissance. Mais comme on disait récemment dans le particulier, s'il y a obéissance, c'est qu'il y a des commandements. S'il y a des commandements, c'est qu'il y en a un qui commande. Et si je veux obéir au commandement, il faut d'abord que j'écoute celui qui commande. Et si je passe mon temps à courir, je ne pourrai jamais entendre la voix de celui qui me commande. Eh bien, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et après, en Jean 12, on voit chacun à sa place. Lazare le mort, Marthe servait et Marie apporte la bonne odeur du parfum, ayant brisé le vase. Donc le fait, ce n'est pas de rester assis sans rien faire, ce n'est pas du tout l'enseignement de la parole. Nous ne sommes pas appelés à être des contemplatifs, sinon on s'enferme dans des monastères. Ce sont les carmélites, les carmènes ou les carmélites, hommes et femmes, qui ont un rôle contemplatif. Non, ce n'est pas ça. Mais avant d'agir, il faut d'abord apprendre. Et faisons encore appel à ceux qui nous suivent, comme ayez le désir d'apprendre. Alors nous revenons à l'apôtre Paul. Une fois qu'il a été brisé, une fois qu'il est tombé par terre, de toute sa hauteur, de son cheval, ça a dû être dur pour lui d'ailleurs, le contact avec le sol, la réalité. Eh bien, deux questions. Qui es-tu, Seigneur ? Oh, le Seigneur répond, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà, assis devant lui. Lui qui ? Jésus que Paul persécutait. Quelle rencontre pour Paul avec le Seigneur. Il avait été consentant à la mort d'Étienne, il avait été témoin, il jouait un rôle important, certainement, il dirigeait les opérations, puisqu'on mettait les vêtements au pied de Saul. Et puis voilà qu'il rencontre celui qui le rend aveugle, celui qui le fait tomber de cheval, celui qui lui dit « Je suis, je suis ». Or pour Paul, le pharisien, le « je suis », c'est très bien ce que ça veut dire. C'est « moi je suis », c'est le Yahvé, Yahvé, l'Éternel de l'Ancien Testament. Et pour lui, il n'y a aucun doute. « Je suis », il n'y a qu'un qui peut dire « je suis », c'est l'être divin. Et la deuxième question de Paul, on y revient, on arrive, c'est « que dois-je faire Seigneur ? » Eh bien, lève-toi, lève-toi. Et vous imaginez ce grand Saul, imbu de lui-même, pharisien des pharisiens, parti à Damas avec les lettres des principaux sacrificateurs, qui doit être conduit par la main pour aller à Damas, la rue appelée la droite. Tiens, c'est un hasard, vous croyez que la rue s'appelait la droite ? Saul l'a compris. Et voilà qu'on doit le conduire par la main. Saul a dû qu'as-tu dans ta maison ? Qu'as-tu dans ta main ? Demande l'Éternel à Moïse. Qu'as-tu dans ta main ? Pas une verge, un bâton. Un bâton ? Et tu vas, avec un bâton, tu vas lutter contre Pharaon, assis sur son trône, avec tout l'apparat et la puissance. Qu'as-tu dans ta main ? Une verge. Eh bien, qu'as-tu dans ta main, Saul ? Rien. Qui était pour moi était un gain, je l'ai considéré comme des ordures. Mais, à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, ils étaient assis devant lui. Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas un ordre contemplatif, ce sont les fils des prophètes qui apprennent d'Élisée assis devant lui. Alors, la nourriture ne manque pas. Mais la grande marmite cuit son potage pour les fils des prophètes. Avec quoi ? Il y a la famine. Eh bien, l'Éternel s'est donné aux croyants la nourriture dont ils ont besoin en temps voulu. Ouvrons la parole, bien-aimés. Vous, plus jeunes qui nous suivez, qui dans quelques années devront assumer le premier rang, la première place, ça ne veut pas dire que nous avons la première place, c'est pas ce que je veux dire. Mais vos responsabilités particulières, eh bien, apprenez de moi. Apprenez du Seigneur et lisez la parole. Lisez la parole. Et plus vous la lirez, plus vous y trouverez des richesses insoupçonnées. Oui, mais j'ai déjà lu tant de fois ces récits-là. Mais ce récit-là, ça fait combien de fois que j'entends parler ? Ah, tiens, il n'y a rien de nouveau pour vous aujourd'hui dans ce récit ? Si. Si, il y a toujours quelque chose de nouveau. Vous mangez bien tout le matin la même chose ? Toujours du pain, toujours de... Et il n'y a rien de nouveau chaque matin ? À moins que on arrive à dire « Mon âme est dégoûtée de ce pain misérable. » Ah, ça c'est possible alors. Mais dans ces conditions, c'est grave. C'est grave. Parce que si l'on est dégoûté de la nourriture qu'Élisée a préparée, cuise un potage, ça veut dire qu'il y avait bien ce qu'il fallait. Alors dans ces conditions, on va les chercher ailleurs. Et on revient au danger des fils du prophète du chapitre 2, c'est-à-dire une connaissance exacte, juste, mais que l'on ne sait pas approprier, qui n'a pas eu une réalité effective, une pratique pour moi-même. Et je reprends l'exemple, on connaît toute chose, ça se fait très bien, mais on n'est pas impliqué. Faites pas de soucis, il y en a un qui veille derrière, et Satan saura bien donner à ceux qui observent les choses de loin, sans disant ça, c'est sans se impliquer. On va pas dire c'est pas pour moi, c'est pas ça. Mais on regarde les choses de loin. Ils font ceci, ils font cela, ils disent ceci, ils disent cela. C'est très bien, c'est très beau. Satan saura donner les colocains sauvages. Et des récents exemples l'ont montré, hélas, de façon cuisante. Satan sait donner, faire trouver, sait apporter les colocains sauvages quand on ne reste pas de façon étroite et impliquée et personnelle et avec engagement, engagé, assis devant le Seigneur. Ah, les colocains, les vignes sauvages, d'accord, il y en a partout, hein, c'est bien connu. Tout ce qui est jachère dans les pays vinicoles, on trouve de la vigne sauvage et elle est bonne. Mais voilà qu'au milieu des... Au milieu de la vigne sauvage, il y avait, tiens, des jolis fruits. Vous savez, les colocains sauvages, c'est très joli. Et on s'en sert dans le moment de Noël, fin d'année, là, on s'en sert pour décorer les tables, décorer les étagères. Hein, ces petits cucurbitacées, là, qui ont des formes bizarres. Chacun a des formes différentes, chacun a des couleurs différentes. C'est donc extrêmement joli. Et avec un peu d'art que je n'ai pas, on s'est présenté une corbeille avec les colocains sauvages. C'est un très joli... Un très joli décor. Satan sait édulcorer les enseignements qui sont, c'est pas opposé, mais qui sont mélangés à la vigne sauvage. En tout cas, qui ne sont pas dans la marmite. Et cela nous fait trembler, parce que pour nous-mêmes d'abord, en regardant quelque chose sur Internet qui nous intéresse beaucoup, et puis voilà qu'à droite, là, toujours à droite, hein, ça clignote, ça clignote, ça clignote, ça clignote pour attirer notre attention. Et on ne peut même pas l'effacer, on peut même pas l'enlever. Il faudrait mettre un masque sur la partie droite de cet écran. Satan sait nous apporter, quand on est en période de doute, d'incertitude, mais est-ce que, bon, oui, ça c'est très bien, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font là-bas, c'est très bien. Mais y a-t-il pas mieux ailleurs ? Ah si, Satan dit, oui, je vais te trouver ailleurs quelque chose de bon. Je vais te trouver quelque chose de bon. Et remarquez l'activité de cet homme par rapport à ceux qui sont assis. Verset 39. Premièrement, il sort au champ. Lui au moins, il ne va pas rester assis sans rien faire. Deuxièmement, il cueille des herbes. Troisièmement, il trouve de la vigne sauvage. Quatrièmement, il cueille des colocannes sauvages. Troisièmement, il rentre. Et attention, les colocannes sauvages, plein sa robe. Hein. Non, ce n'est pas deux petits trois cucurbitacées qu'on met dans la poche. Non, plein sa robe. Ensuite, il rentre à la maison et la coupe en morceaux dans la marmite. À qui a-t-il demandé l'autorisation ? On va demander à des frères, des sœurs plus âgés. Tiens, écoutez, je pars, tiens, voilà, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela, qu'en pensez-vous ? Ah non, moi je suis assez grand pour savoir ce qui est juste et ce qui est bon. Ah oui, la mort est dans la marmite, on ne le connaissait pas. Eh bien, le remède est tout simple, bien aimé, et c'est le rôle des parents aussi qui doivent accompagner les enfants. Et le rôle des parents, c'est de présenter Christ. Tiens, tu trouves Christ là, dans les colocannes sauvages ? Tu trouves l'enseignement des épîtres dans les colocannes sauvages ? Et alors, c'est la farine. C'est-à-dire que il n'y a ni raisonnement, ni sagesse, ça ne sert à rien de raisonner. De même qu'Élisée avec les fils des prophètes. Je le sais, moi aussi, taisez-vous. Élisée ne va pas raisonner avec les fils des prophètes, écoutez-vous. Restez là où vous êtes, et puis le Seigneur prendra soin de vous pour vous faire croître dans la vie chrétienne. Moi, je vais avec Élie. Moi, je suis Élie. L'Éternel est vivant et mon âme est vivante, que je ne te lasserai pas. Petite parenthèse, c'est la même phrase que la Tsunamite utilise auprès d'Élisée quand Élisée a envoyé Géasi avec le bâton pour ressusciter le fils. Mon âme est vivante, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante que je ne te laisserai pas. Elle a utilisé les mêmes mots que Élisée a répétés devant Élie. Et voilà la farine. Christ homme, ce pain de vie, cette farine qui nourrit l'homme Christ Jésus. Et alors quel est le contrepoison ? Eh bien, lisons les évangiles. Lisons les évangiles et voyons le Seigneur qui se levait de bon matin. Pourquoi faire ? Pour prier. Comment ? Seigneur qui prie ? Il est Dieu, c'est lui qui commande. Il connaît toute chose, la fin de toute chose avant son commencement. Il prie. Il prie qui ? Son Père ? Oui, mais moi et le Père, nous sommes un. Pas la peine de prier à quelqu'un qui est l'identique à moi-même. Moi et le Père, nous sommes un. Eh bien, le Seigneur se présente justement comme la farine, c'est-à-dire dans son humanité parfaite. Non pas comme fils de Dieu, bien sûr. Ça, c'est le vieux blé du pays de Josué 5 que les fils d'Israël trouvent en entrant à Gilgal après l'avoir célébré la Pâque. Mais c'est la farine, Christ homme, donc les évangiles. Oui, mais je connais les évangiles. Depuis que je suis à l'école du dimanche, depuis que j'ai des oreilles et des yeux, on me présente les évangiles. Hein ? Et cela vous suffit ? Cela te suffit ? Tu n'en as plus envie ? Ah, Satan sera de présenter, t'apporter les colocannes sauvages. Ça, alors tu peux. C'est certain et sûr. La farine. Bon, allez, il faut passer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a lu ensuite ? Je ne me rappelle même plus. Alors, chapitre 6. Et les fils des prophètes, cette fois, ils veulent quitter Gilgal, ils quittent Gilgal. Les fils des prophètes disent à Élisée : tu vois que le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une pièce de bois et nous y bâtirons un lieu pour y habiter. Allez. Alors, l'un d'eux insiste, comme j'ai déjà dit. Ah non, il faut que tu viennes avec nous. Sans toi, on ne peut rien faire. Consent, je te prie, à venir avec tes serviteurs. Il dit, j'irai. Deux interprétations, deux leçons différentes dans ce verset premier. J'insisterai sur le côté positif, sans du tout laisser le côté négatif. Ce lieu est trop étroit pour nous. Il me faut des nouveautés, il me faut aller chercher ailleurs, il me faut trouver mes aises, il faut trouver ce qui répond à mes besoins intellectuels, sentimentaux, et tout ce à quoi j'aspire, et forcément c'est la faute des autres si je ne trouve pas ce que je cherche dans le rassemblement local. Mais ce n'est pas ce côté-là que je vais considérer, qui a sa place, dans des enseignements à ce sujet-là. Mais Gilgal, c'est le lieu de la repentance, le lieu de la circoncision, le lieu de la où on réalise que je suis crucifié avec Christ. Mais il n'est jamais dit dans la parole qu'il nous faut demeurer à Gilgal. On voit là un peu Élisée qui est, mais il faut aller ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut élargir le chemin. On ne va pas rester à Gilgal. Non. Je reprends, notre vie n'est pas contemplative. On ne va pas passer son temps à se lamenter de ce que j'ai la chair en moi, je dois maintenir la chair dans la mort, il faut que je porte en moi la circoncision du Christ. Non, les fils d'Israël devaient aller conquérir le pays, devaient aller faire la guerre avec Josué, et après chaque victoire, ils devaient revenir à Gilgal. Ça veut dire quoi? Ne pas se satisfaire, ne pas se vanter, ne pas être satisfait de soi-même, de ce que j'ai remporté une victoire. Et on voit quand Josué, Moïse, chaque fois, c'est Samuel aussi, c'est y bâtir un autel. C'est-à-dire que à chaque victoire que le Seigneur m'a permis de remporter sur moi, sur le Satan, sur telle et telle circonstance, alors mon rôle, mon devoir est de me prosterner devant Dieu et de rendre hommage à Dieu, de donner toute gloire et reconnaissance à Dieu. Il faut revenir à Gilgal. Mais quant à demeurer à Gilgal, non, il faut aller, il faut aussi servir, il faut marcher et il faut être ses témoins, il faut être des chrétiens actifs sur la terre. On l'a déjà vu plusieurs fois, ces chrétiens, ces fils de prophètes assis, c'est pas, on ne va pas rester assis tout le temps, toute notre vie. Ce n'est pas ça du tout. Et alors, ils vont au Jourdain. C'est-à-dire que, ils retournent au lieu de la mort. Et qu'est-ce qui nous fait dire ceci? 2 Corinthiens 4, verset 10, verset 7, le début, là. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu, non pas de nous. Là, on arrive alors à, on revient au chapitre 4, c'est le pot d'huile. L'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Et verset 10, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, portant toujours partout. Toujours le lieu, partout le temps. Qui veut bien dire qu'on doit demeurer au Jourdain, auprès du Jourdain. Quand toujours et où? Partout. Portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus. Mais pourquoi faire? Pour rester contemplatif et inactif? Non. Afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps, nous qui vivons, etc. Donc, habiter le Jourdain. Habiter le Jourdain, mais en réalisant à chaque instant de notre vie, dès que nous voulons faire quelque chose, dans toutes nos actions, mobiles, paroles, actes, pensées, décisions, épreuves, joies, eh bien, portant toujours, partout, la mort de Jésus. 6, verset 4, Élisée alla avec eux, ils vinrent au Jourdain, coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria et dit, hélas, mon maître, il était emprunté. D'après le chapitre 9, on a vu, hein, verset 4, c'est pour ça que j'ai lu le texte, le jeune homme, le jeune prophète. Or, il est bien dit qu'il appela un des fils des prophètes. Donc, d'après le chapitre 2, roi 9, verset 4, on peut penser que ces fils des prophètes étaient assez jeunes. C'était des jeunes gens qui avançaient dans la vie chrétienne et qui faisaient des progrès dans la vie chrétienne, mais toujours avec Élisée. Premièrement, deux leçons là. Il était emprunté. Et on revient à ce que, ça fait déjà 3-4 fois que je le répète, les vérités sont empruntées, sont les vérités des autres. Ce ne sont pas les miennes. Je ne les ai pas fait miennes. Je ne les ai pas laissées pénétrer en moi-même. Je n'ai pas recherché la puissance vivifiante de l'esprit dans le fruit de l'esprit qui se manifeste à chaque instant. Alors, j'utilise un outil emprunté. N'est pas à moi. C'est celui de mes parents, c'est celui de mon frère. Tiens, au fait, ce frère, ce qu'il fait bien, ce qu'il fait, c'est bien. Alors je vais faire comme lui. Ah, ce qu'on voit là, tu vois, c'est très bien. Alors ben voilà, c'est ça que je dois faire. Je vais faire comme lui. J'utilise un outil emprunté. C'est le pauvre Pierre. Il tire l'épée. C'est bien beau d'avoir une épée. Qu'avait-il à faire d'une épée, d'ailleurs, au passage? Mais pas le sujet. Mais il veut utiliser l'épée. Qu'est-ce qu'il fait? Il emporte une oreille, qui montre bien qu'il ne savait pas s'en servir. Et puis, deuxièmement, donc, c'est cette maladresse. Voilà qu'il utilise un outil emprunté. Et puis, il est maladroit, parce que ce n'est pas le sien. Il n'était pas exercé pour la guerre. Il n'était pas exercé pour le service. Il n'avait pas appris à servir en son temps. Et voilà que le fer tombe. À la fois des vérités, des outils, des moyens qui ne sont pas les nôtres, qu'on a vu faire par d'autres et on veut l'imiter, c'est l'imitation. Et deuxièmement, on est maladroit, on ne sait pas s'en servir. Et le fer tombe. Alors on est malin. Qu'est-ce qui nous reste? Rien. Hélas, mon maître. Il est emprunté. Eh bien, la ressource, une fois encore, je m'arrête, c'est le bois. C'est-à-dire, c'est le bois, le morceau de bois. Et coupa un morceau de bois, coupa un morceau de bois. De même que, en Exode 15, L'Éternel lui enseigna un bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand je veux marcher, je ne vais pas utiliser la première ressource qui traîne et que je sais être bonne, mais l'Éternel enseigne à Moïse, il lui montre que c'est celui-là et ce n'est pas un autre, et un bois, et non pas le premier bois qui traîne par terre. Élisée coupa un morceau de bois, pas n'importe lequel, et les jeta. Eh bien, là, c'est la mort de Christ que nous avons apportée au Jourdain, portant toujours partout la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans mon corps, dans ma chair mortelle. C'est la mort de Jésus qui me permet, qui me donne la capacité pour servir et pour construire une maison d'habitation où, au Jourdain, portant toujours partout la mort de Jésus, et où, avec qui? Avec Élisée, avec Christ.